Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District. Je suis avec Éloi Morterolle qui fait un métier assez étonnant. Il y en a très très peu qui font ce métier. C'est éditeur de Webtoon. Donc on va parler de ce nouveau média, cette nouvelle façon de publier et de consommer, de lire des bandes dessinées. Éloi, bonjour. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et comment on devient éditeur de Webtoon?
Ouais, salut, enchanté. Effectivement, on devient éditeur de Webtoon un peu par hasard en France. Ça veut dire que ça m'est tombé dessus presque comme ça il y a 5 ans. C'est Isneo qui à l'époque m'avait appelé en me disant tiens, Éloi, t'as un peu bossé pour nous. Est-ce que tu voudrais pas être éditeur de Webtoon? Et donc j'avais dit oui, carrément. Puis j'avais raccroché, puis j'avais tapé Webtoon dans mon moteur de recherche favori en me disant j'ai dit oui au poste, maintenant faut quand même que je comprenne un peu de quoi il s'agit. Et voilà comment on devient éditeur de Webtoon en France. Hein. Ça a été à l'époque il y avait personne, à vrai dire, à part Dailytoon, qui est connu, dont on parlera peut-être plus tard dans l'interview. Il y avait Dailytoon qui avait fait une première tentative avec Last Man de Bastien Villas, notamment. Mais c'était tout. Et voilà, donc en fait, c'est par vraiment pur hasard, et c'était parce que j'étais déjà plus ou moins éditeur de BD qui m'ont appelé, tout simplement.
Alors, qu'est-ce que c'est que Webtoon?
Alors, écoute, selon le moteur de recherche de l'époque, le Webtoon, c'est une bande dessinée qui se lit sur téléphone portable de façon verticale. Donc, c'est du scrolling infini. Tu défiles ton doigt un peu comme sur Instagram ou autre application, sauf qu'au lieu de regarder des posts d'inconnus, tu lis une bande dessinée qui se découpe souvent par épisode pour former une saison. Ça peut aller de 24 épisodes, dans notre cas, par exemple, à des saisons, ça peut aller jusqu'à 120, 130, 140, 150 épisodes. Ça dépend du succès de la série.
Alors avant de parler de ce qu'on trouve dans les webtoons, est-ce que tu peux nous faire un petit historique du webtoon? D'où ça vient? De quel pays? Qui a inventé ça? Et comment ça s'est propagé?
Ça a été inventé en Corée il y a une vingtaine d'années. Ça a vraiment explosé il y a 10-15 ans. C'est avant tout Naver, qui est le Google coréen, hein, donc c'est une boîte qui pèse des centaines de millions, qui a créé cette plateforme pour faire du passage sur ces sites internet. Donc ils avaient tout un tas de créateurs de webcomics, ils ont tout rassemblé, ils ont créé une application, et là ça a complètement explosé. Il faut savoir qu'en Corée, à ce moment-là, le marché du livre, et notamment du livre dessiné, se cassait la figure. Les Coréens lisaient de moins en moins, les points de vente physiques disparaissaient, et à l'inverse, le marché du smartphone était en train d'exploser. Donc il y a vraiment eu un transfert, en gros, hein, de l'art dessiné sur le téléphone portable qui s'est fait de façon extrêmement efficace. Et ils ont vraiment, ça a été une décision politique très soutenue, ils ont décidé d'en faire un produit culturel extrêmement fort, un peu comme la K-pop. C'est vraiment à ce moment-là que la Corée, il y a une quinzaine d'années, décide d'avoir un programme culturel très fort, à l'instar du Japon. Et ils ont un but évident de faire une vague, la vague Hallyu, qui a aujourd'hui déferlé sur le monde. Hein. Tout le monde connaît les BTS, tout le monde parle de Webtoon. Aujourd'hui, les produits coréens sont absolument partout. Voilà, comme à une certaine époque, les produits japonais étaient absolument partout dans le manga. Donc voilà, donc il y a eu vraiment cette sorte de corrélation entre des très grosses entreprises de la tech, une disparition du marché culturel imprimé et des pouvoirs politiques extrêmement expansionnistes, on va dire, qui a créé le Webtoon à ce moment-là.
Alors, ça s'adresse à quel public? Parce que ce que j'ai pu voir sur les différentes plateformes, c'est plutôt un public jeune, on va dire, qui lit du manga, mais du manga traditionnellement pour la jeunesse.
Exactement. C'est même, disons qu'aujourd'hui, le manga est une offre qui s'adresse à des adultes. Et de plus en plus, là, le Webtoon, on est encore dans une cible qui commence à 10-12 ans, on va dire 12 ans, c'est collégien en France pour nous, en gros, c'est les premiers téléphones portables. Donc ça va créer beaucoup de romances, beaucoup d'histoires pour des vieux lecteurs, un peu comme nous, on a le sentiment d'en avoir beaucoup lu, voilà, comment le dire, de façon élégante. C'est assez classique, c'est très fonctionnel et on sait raconter ce genre d'histoire. Voilà, il y a beaucoup de shonen un peu fantastiques et beaucoup de romances un peu mignonnes. Voilà. Donc c'est vraiment le cœur de cible, c'est des primo-lecteurs qui seraient probablement allés assez naturellement vers du manga aujourd'hui, je dirais, et qui aujourd'hui ont tous un téléphone. C'est extrêmement facile d'accès et c'est un nouvel endroit où lire leur contenu en fait.
Il y a du webtoon, enfin je parle pas du webtoon porno qui existe évidemment, puisque chaque fois qu'il y a des choses qui se développent, il y a du porno quelque part. Mais
forcément.
Est-ce qu'il y a du webtoon, je dirais, plus adulte, avec des histoires un peu plus adultes? Est-ce que ça existe là?
Oui, il y a quelques pépites, je pense notamment à Horizon, qui est une série sur deux enfants qui fuient la guerre civile de leur pays. Et on va suivre toute leur démarche dans un territoire complètement ravagé. Voilà, ça c'est clairement, tu peux le lire à 14 ans, hein. Aujourd'hui les ados lisent des choses bien plus violentes que ça, mais disons que le propos que porte l'histoire implique une certaine connaissance de qu'est-ce qu'une guerre civile, qu'est-ce qu'un pays qui se déchire, etc. Donc tu as quelques œuvres qui s'adressent à des plus grands, tu as aussi des œuvres plus pop culture, un peu moins sombres comme L'Or Olympus, qui marche très bien auprès des 12-13 ans, mais qui marche très très bien auprès des 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que c'est juste une bonne œuvre. Et d'ailleurs, elle a été adaptée en bande dessinée aux États-Unis, les droits ont été vendus en France et c'est un carton. Donc oui, t'as quand même déjà aujourd'hui des œuvres adultes qui ne sont pas des œuvres adultes pornographiques, donc, mais qui sont vraiment destinées à des gens qui lisent depuis longtemps et qui sont extrêmement intéressantes. Mais c'est pas la majorité de la production qui se concentre vraiment sur le public cible, c'est-à-dire le 12-14 ans. Si je reviens sur la création du webtoon, ça s'explique, hein. Par exemple, l'arrivée de webtoon en France, de webtoon l'entreprise, qui a réussi d'ailleurs, on peut le souligner, à marketer un nom. Le nom du médium leur appartient. Ce qui est quand même majestueux, c'est comme si une librairie qui s'appelait la librairie La Bande Dessinée possédait le nom Bande Dessinée. C'est quand même, et que personne ne pouvait l'utiliser. C'est quand même bien joué. Mais ça montre un peu l'idée du webtoon. Ça veut dire qu'ils ont un produit et ils comptent bien l'utiliser jusqu'au bout pour vendre, en fait, d'autres produits. Et c'est pour ça qu'ils s'adressent à des adolescents. Parce que ces ados vont se mettre à utiliser une adresse en @never.com plutôt qu@gmail.com. Ils vont se mettre à utiliser le moteur de recherche never.com. Ils vont se mettre à acheter du contenu musical sur leur site. Et en fait, c'est vraiment pour vendre un ensemble. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'attaque à cette tranche d'âge, hein, parce que derrière, on va leur vendre plus de choses, on va les habituer, etc. etc.
Alors, une question, est-ce que le webtoon, c'est de la bande dessinée?
Alors, pour moi, le webtoon, au même titre que le manga ou que le comics, fait partie de l'art de la bande dessinée. Voilà. C'est pas de la bande dessinée franco-belge, c'est pas du manga, c'est pas du comics, mais c'est clairement un quatrième ajout, on va dire, qui pour moi aujourd'hui, s'il n'a pas encore acquis ses lettres de noblesse, comme on vient d'en parler un petit peu, je pense qu'il n'y a pas encore eu une œuvre majestueuse. Même L'Or Olympus, qui est très bien, il n'y a pas encore eu, je ne sais pas, alors, vu que je suis un peu plus âgé que le lecteur moyen de Webtoon et que je travaille chez Dupuis, il n'y a pas encore eu le photographe. Voilà, tu vois, le photographe en bande dessinée. Il n'y a pas encore eu ce genre d'œuvre, mais ça va arriver, j'en suis convaincu. Et du coup, ça mérite vraiment sa place en tant que grand genre. Et oui, pour moi, ça fait partie des arts dessinés, clairement.
Là, ce qui est intéressant, donc je me suis quand même penché sur la question, c'est que moi, je suis un lecteur de bande dessinée comme toi, donc on a des pages, un rythme, des cases, un découpage. Et là, le webtoon, ce qui est très troublant, parce qu'il faut s'y habituer, c'est qu'on a l'impression de lire case par case, et que la façon dont c'est écrit, c'est la narration case par case, et on ne peut pas y échapper à ça.
Non, en fait, t'as toujours cet espace effectivement intericonique qu'on a dans la bande dessinée. Et le seul truc que tu rajoutes, c'est plus la planche, en fait, c'est le téléphone portable. Ça veut dire que c'est un case par case vertical uniquement. Et là où avant, il y avait une planche, une sorte de lecture de droite à gauche et de haut en bas, maintenant, t'as vraiment plus que cette lecture de haut en bas, sachant que t'es vraiment délimité par ton téléphone qui forme une case à part entière. Donc là, je sais que ces trois dernières années, il y a des champs de recherche qui sont créés autour de ça et de justement... qu'est-ce que ça veut dire pour la bande dessinée, le fait que la case soit matérialisée par non plus par la planche mais par le téléphone, mais ça permet tout un champ de recherche. Je pense par exemple à une série webtoon que j'ai édité chez nous qui s'appelle Soma, qui utilise à plusieurs reprises un défilement interminable, et ça c'est pas possible en bande dessinée. c'est vraiment possible que dans le webtoon. Et les auteurs se sont amusés et sont vraiment astreints à cette richesse qui est de dire, bah tiens, on va partir du haut, on va arriver en bas de l'épisode, donc 75, donc c'est 3 minutes de lecture, sans qu'il y ait jamais, quasi jamais, une seule rupture. Et ça, c'est hyper intéressant. Et il n'y a que le webtoon qui permet ça. Tu peux pas faire une bande dessinée. Alors si tu as les Leporello, pour ceux qui connaissent et qui nous écoutent, qui sont des sortes de... d'accordéon de bande dessinée, et là ça forme une sorte de frise de Bayeux, quoi, de voilà, mais on sent que c'est vraiment de la recherche. Dans le webtoon, on peut vraiment s'amuser à faire ça, tu peux retourner ton téléphone, avoir quelques bandes horizontales très longues, et là ça crée un espace de respiration hyper intéressant.
Donc en fait, on peut zoomer, c'est ça aussi qui est intéressant, on peut zoomer, on peut aller dans les cases, ce qu'on peut pas faire en bande dessinée, sauf si c'est un exercice de découpage.
Voilà, sauf si c'est du Marc-Antoine Mathieu qui s'amuse à faire une recherche fondamentale en bande dessinée, mais dans l'ensemble, on le fait assez peu.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait du son dans les webtoons? Là, on serait dans le dessin animé, parce que la frontière, elle est fine. Hein.
La frontière est assez fine, alors elle existe. Il y a un peu de son dans le webtoon, mais ça reste marginal, ça reste des volontés artistiques. Déjà, les applications ne le permettent pas forcément. Que ça soit Webtoon, celle sur laquelle nous on publie majoritairement, c'est-à-dire Ono, ou même Picoma, qui est la deuxième plateforme essentielle en France. C'est un développement qu'ils n'ont pas fait. Il faut vraiment imaginer que c'est comme la bande dessinée, et par rapport à toutes les expériences numériques de bande dessinée qu'on a pu faire au cours de ces 20 dernières années, il y en a eu des très bonnes, hein. Il y a eu Professeur Cyclope, il y a eu Spirou Z, il y en a eu plein, et qui avaient justement du turbo média, du son, un peu de dessin animé. Là, ils ont vraiment trouvé un truc qui marche. Donc, ça veut dire qu'ils vont à la substantifique moelle. Bah, c'est comme une bande dessinée. Peut y avoir du son. Hein. On peut mettre un CD, mais c'est franchement pas nécessaire. C'est plus un plus produit, un bonus. Et là, c'est vraiment ça. C'est l'ado qui lit ça dans son bus ou le soir avant de se coucher ou la nuit à la place de dormir. Il y a pas de son. Il y a juste de la lecture. Voilà.
Et comme ça, les parents sont pas au courant.
Par exemple, sauf quand ils reçoivent la douloureuse par carte bancaire, qu'on paye un peu trop d'épisodes en avance, mais ça, c'est drôle. Mais pardon.
Moi, c'est ce que j'ai vachement aimé dans ce que j'ai dans le webtoon. Je suis un grand fan, évidemment, comme plein de gens de séries. Les séries en bande dessinée, il faut attendre 1 an, 2 ans, quelquefois 3 ans pour avoir le tome 2, le tome 3, ça peut durer vachement longtemps.
Ouais.
Le webtoon, ce qui est fascinant, c'est que chaque semaine, quasiment, ou peut-être tous les 15 jours, en tout cas, le rythme est très rapide. Tu as un épisode de plus. Donc, tu n'attends jamais en fait, d'avoir la suite. C'est ce qu'avait inventé Alexandre Dumas, c'est ce qu'a inventé les grands auteurs. C'est une recette qui marche toujours.
Ouais,
c'est assez extraordinaire de production.
Le côté hebdomadaire est vraiment, pour le coup, intrinsèquement lié au webtoon. Bah, comme tu cites les romans feuilletons, Alexandre Dumas, il y en a eu plein, hein. C'est les Anglais, on faisait pléthore. Là, c'est pareil, si tu veux, il faut vraiment faire revenir chaque semaine ton lecteur sur l'application. Et chaque semaine, c'est chaque jour, chaque demi-journée. Donc, du coup, ils ont des cycles de production extrêmement rapides. Nous, c'est ce qu'on fait encore chez Dupuis avec Spirou. Hein. Spirou, c'est une publication hebdomadaire. Chaque semaine, tu retrouves ton épisode et il faut attendre une semaine pour avoir la suite, etc. Donc là, on revient... Entre guillemets, il y a eu la presse de la presse en BD, je commence à me perdre dans les dates, mais ça doit être au moins 60 ans maintenant, je dirais comme plus. On va dire que le dernier grand journal, ça devait être Pilote, à part Spirou, évidemment. Et on est tous passés à l'album. Bah là, le webtoon, c'est l'inverse. On a cette prépublication extrêmement forte, semaine par semaine, et de temps en temps, on repasse à l'album. Voilà, c'est vraiment comme à l'époque de Tintin et Spirou, c'était pas une obligation de passer en album. Seuls les grands succès y passaient, et maintenant, le webtoon, c'est pareil. Donc, ça s'explique et les cycles de production sont évidemment extrêmement rapides. Alors, il y a du bon et du moins bon. Hein. Du coup, ça se joue énormément sur les personnages. Il y a très peu de décors. C'est souvent les mêmes décors qui sont des modèles 3D. Voilà, il faut pas... Pareil, quelqu'un d'extrêmement éduqué à l'image souffrira peut-être un petit peu dans certains webtoons, mais ça fait vraiment partie du jeu. Ça fait partie de la production, et c'est exactement ce que tu dis, hein. C'est comme certaines séries télé, faut pas trop regarder le jeu d'acteur, ou faut pas trop regarder le décor 3D de la série télé sur Netflix ou Disney, on n'est pas là pour ça, quoi.
Voilà. Alors, pour avoir autant de webtoons, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des équipes de dessinateurs français, des scénaristes? J'imagine qu'il y a beaucoup d'achats de droits, des licences, parce que la production doit être colossale en Corée, et au Japon d'ailleurs.
Ah bah alors, le Japon est un peu en retard. Le Japon a un peu raté le coche du webtoon, pas complètement, mais quand même pas mal. C'est vraiment coréen. Et alors oui, effectivement, les Coréens, ils ont un catalogue qui date d'il y a 15 ans. Donc, ils ont de la ressource. Voilà. Donc, en France, là, il faut vraiment comprendre comment fonctionne le marché français. Donc, ça veut dire que tu as, on va dire, deux énormes plateformes qui sont Webtoon France et Picoba, qui, eux, sont des plateformes coréennes, voilà, à la base, donc qui traduisent massivement leur propre contenu et qui achètent des contenus en France, soit à des auteurs créateurs sur place, ça c'est Webtoon.fr, soit à des éditeurs, ça c'est Picoma, ils font du manga par exemple, ils vont acheter, je ne sais pas, One Piece à diffuser sur leur plateforme, voilà, un peu comme un libraire. Ouais. Après, tu as la particularité de Dupuis et Ono slash Webtoon Factory, c'est vraiment que nous, on a décidé il y a 5 ans, après le coup de fil chez Isneo, j'ai été récupéré par Dupuis qui, au même moment, lançait Webtoon Factory. Et eux, notre principe, c'est vraiment d'éditer des auteurs français et européens, en tout cas de ne faire que de la création, comme on sait le faire depuis 100 ans chez Dupuis, c'est l'âge de la maison d'édition. Voilà, c'était vraiment d'être éditeur de Webtoon et de ne pas, laisser ce territoire créatif uniquement à l'achat de droits. Le manga, il y a assez peu de mangas français, à part Dreamland et évidemment Radiant, on va dire, et puis tu en as quelques autres qui marchent très bien, mais la création du manga français a toujours été un peu particulière. Sur le Webtoon, tout le monde s'en fiche. Le lectorat, si c'est un webtoon français, il va être hyper content. C'est beaucoup plus la nouvelle génération, on va dire. Il n'y a pas cette notion de lire l'original du pays. Preuve en est, des super réussites comme l'Or Olympus américain, qui n'a rien à voir avec la Corée, ou Colossal en France, qui a très bien marché, ou chez nous, le grand retournement de Mr. Box, qui est un carton, Soma, dont je te parlais. Distress, on en a plein. Donc ça, c'est vraiment un peu chaque plateforme a sa particularité. Et puis, évidemment, les éditions Dupuis, on a notre savoir-faire d'éditeur et on compte bien investir le web.
Et ça ne doit pas être simple pour un auteur formé à la bande dessinée européenne de se couler plutôt dans les codes du webtoon. Ouais.
Alors, c'est souvent des jeunes auteurs. C'est souvent des premiers auteurs, c'est leurs premières œuvres. Effectivement, des auteurs qui font de la bande dessinée ou des auteurs qui font du manga au Japon vont pas très naturellement vers le webtoon. Ils pourraient, honnêtement, c'est une question d'apprentissage. Mais bon, à vrai dire, quand tu es auteur de BD et que tes BD fonctionnent déjà, il n'y a pas forcément de raison à faire du webtoon, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de primo-auteurs, primo-autrices. Et puis, c'est, donc, comme je te disais, un des genres principaux du webtoon, c'est la romance, qui est un genre qui a été quand même pas mal abandonné par les éditeurs de bande dessinée classique. Autant les Japonais, le manga, il y a le côté shoujo, il y a des trucs incroyables qui existent et ils n'ont pas abandonné, autant en France, la bande dessinée franco-belge, quand on y pense, la romance, c'est clairement pas ça, quoi. Donc, il y a à la fois des lecteurs et des lectrices qui étaient complètement abandonnés par les éditeurs français, et puis des auteurs et autrices qui pouvaient pas vraiment éditer sur leur marché d'origine. Et le webtoon est arrivé pile poil au bon moment, parce que ça connecte les points, quoi.
Donc, oui, c'est vrai que soit la littérature jeunesse, bon, il y a des trucs de grande qualité, du roman graphique jeunesse, mais souvent c'est soit de la galéjade, j'allais dire.
Ouais,
après, il y a plus roman graphique et après, il y a plus rien, quoi. C'est un raccourci, mais c'est un peu ça. Et c'est vrai que le webtoon et le manga ont pris une place qui avait été complètement, peut-être même qui a jamais été prise en Europe par la bande dessinée d'ailleurs.
Oui, ça s'explique de façon, là pour le coup, je pense que ça peut s'expliquer de façon à la fois historique et sociologique. On a fait de la bande dessinée, la bande dessinée franco-belge était énormément tournée vers la jeunesse, Spirou, etc., les grandes séries, et beaucoup fait par des hommes aussi. Donc ça, il y a une explication là où le webtoon, c'est plus tout à fait pareil. Ils avaient un lectorat, ils savaient lequel ils voulaient, ils savaient ce que le lectorat voulait. Voilà, donc il y a un moment. Ils ont bien fait le travail.
L'autre particularité du webtoon, c'est aussi la façon dont on l'achète. C'est-à-dire qu'il y a des formules d'abonnement avec des tokens, avec des jetons. On achète, Comment ça marche d'ailleurs ? Est-ce qu'on achète des épisodes ? On achète des séries ? Comment ça fonctionne ?
Alors, sur Ono, qui est la plateforme de Dupuis aujourd'hui et du groupe, on achète des épisodes avec des coins, monnaie virtuelle, assez classique aujourd'hui, dans l'univers virtuel. Alors, je ne sais plus exactement quel est le coût réel, je crois que c'est 50 centimes l'épisode, voilà, quelque chose comme ça. Picoma, c'est la même chose, et Webtoon France, c'est complètement gratuit, mais tu peux payer en avance si tu ne veux pas attendre, tu peux payer 3 épisodes d'avance. En fast pass, c'est le modèle très répandu, et du coup, bah voilà. Sinon, il faut attendre une semaine pour avoir ton épisode. Donc là, tu payes vraiment l'impatience de découvrir la série. Donc ça explique aussi le mode de production, hein. Un par semaine, un énorme cliffhanger à la fin. Voilà, t'as envie de savoir, t'achètes et puis bah tu sais et puis tu recommences. Mais voilà, c'est un peu les deux modèles. Donc soit payer en avance pour quelque chose qui tu veux pas attendre, soit vraiment louer ton épisode, parce que c'est de la location, hein. Finalement, si jamais tu regardes, il ne faut pas oublier que toutes ces bibliothèques numériques, mais c'est la même chose sur Netflix, c'est la même chose sur Disney, c'est la même chose sur Amazon, c'est la même chose avec les jeux dématérialisés sur Nintendo, c'est que tout ça n'est techniquement que de la location longue durée. Le jour où le service s'arrête, si Nintendo décide d'arrêter son service numérique, et bah, tu n'as plus accès à tes jeux. En fait,
hein. Oui, c'est-à-dire qu'on achète des épisodes, mais on y a accès en permanence une fois qu'on les a achetés.
Exactement. Tant que le service existe, tu y as accès et tu peux relire autant de fois que tu veux. Voilà.
Sans dévoiler des chiffres ou des choses comme ça, quels sont les tops dans les audiences? Ça génère combien de d'abonnements, hein, les meilleurs épisodes, les meilleures séries?
Alors, moi, je pourrais pas trop te dire sur notre plateforme parce qu'elle vient de se lancer. Donc il faut savoir que moi je suis vraiment du côté voilà hein, du côté éditorial. Pendant longtemps Webtoon Factory a une plateforme pour commencer à diffuser ses œuvres, mais elle n'avait pas vocation à rester. Aujourd'hui il y a Ono mais qui vient de se lancer du coup. Mais là où c'est intéressant, ça serait pour regarder les majeurs du marché. Donc on va dire Webtoon France. Et alors j'ai plus mes chiffres en tête, mais tu peux aller jusqu'à 300 000, 400 000 lecteurs sur certaines séries. Je sais que là, par exemple, Because I Can't Love You, qui est une série d'une jeune autrice qui s'appelle Leaf, que nous, on va faire en papier aux éditions Dupuis, du coup, j'ai acheté les droits pour transformer le webtoon en livre papier, elle est à 300 000 abonnés sur sa série. Donc, ça veut dire 300 000 lectrices et lecteurs uniques, c'est gigantesque.
Oui, donc, non,
les chiffres sont fabuleux.
C'est des moyens de toucher un nombre de lecteurs qu'on a quasiment plus, enfin, qu'on a quasiment plus du tout en papier.
Non. Non, bah, parce qu'il faut savoir que là, c'est du gratuit. C'est du gratuit, c'est du smartphone, c'est du internet. J'aurais pas 300 000 lecteurs payants. Je pense pas. Ça serait, je nous le souhaite, mais je serais surpris. Le transfert n'est pas aussi rapide. Mais là, de fait, le smartphone, internet et ses communautés, et le fait que ça soit des adolescents, hein, c'est toi qui me disais que tu avais découvert le webtoon plutôt par ta fille, et bah, l'argent de poche ne suffit pas à tout acheter. Donc là, le fait que ça soit gratuit, c'est génial pour eux. Ça veut dire qu'ils ont accès à un contenu qui est quand même plutôt qualitatif, honnêtement, de façon quasi gratuite. Parce que, évidemment, rien n'est gratuit dans ce bas monde. Donc voilà. Mais si jamais elle résiste à l'appel du fast-pass, elle ne paiera rien. Voilà. Ça apprend la patience, en fait. C'est presque pédagogique.
Oui. Ils sont pas très patients, en fait.
Alors après, bon, écoutez, ça, on dit rien. Hein. Si finalement ils craquent, alors que tout était pour que oui, qui sommes-nous?
Ouais, c'est les parents qui finissent par craquer, en fait.
Ben oui, bien sûr. Mais bon, comme les parents craquaient en achetant le dernier manga ou en abonnant à Spirou. Là, c'est là où après, ça fait partie d'un projet sur la lecture. Et c'est vrai que moi, j'en parle beaucoup avec nos acheteurs, donc c'est-à-dire les parents des adolescents, et qui nous disent quand même souvent, bah en fait, ça me va qu'ils lisent du webtoon parce que c'est toujours un peu de moins de jeux vidéo, toujours un peu moins de... Voilà, ça reste de la lecture, ça quand même.
Oui, non, puis là, j'ai aussi bien regardé l'offre, j'ai aussi regardé en détail, l'offre est quand même assez variée, même si c'est dans un certain style.
Oui.
C'est assez varié, il y a de la romance, il y a de l'aventure, il y a de l'horreur soft, on va dire, du fantastique. Après, il y a des histoires d'amour pour garçons, des histoires d'amour pour filles, des histoires d'amour gay. Enfin, c'est assez...
Tu peux tout trouver.
C'est vrai, ça donne un univers qui est à la fois, je dirais, un peu cucu, et en même temps, très ouvert sur tous les genres, sur ce qui se passe actuellement dans la mentalité des plus jeunes, quoi.
Oui, en fait, c'est vraiment. Et puis, en première lecture, c'est parfait. Si tu lis ça derrière, tu auras plaisir à découvrir. Je sais pas, tu peux même partir sur Les Rois Maudits. En fait, à 14 ans, si l'Or Olympus, c'est la réécriture du mythe grec entre Pénélope et Hadès. Si tu es curieux d'aller plus loin dans l'univers, mais un champ gigantesque de la littérature ou de la bande dessinée s'ouvre à toi derrière. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que, honnêtement, mais comme en bande dessinée d'ailleurs, le niveau d'entrée de jeu pour les auteurs et les autrices est tellement élevé aujourd'hui que si l'éditeur ou la plateforme fait pas trop mal son travail, on peut quand même proposer des choses très très qualitatives à des lecteurs qui ont 14 ans, hein, c'est voire 12 ans. Donc non non, c'est hyper intéressant comme milieu.
Non, puis il y a des tarifs, je dirais, assez attractifs, parce qu'un épisode, c'est une semaine. Si c'est 50 centimes l'épisode, ça fait 2 euros par mois, ça fait l'équivalent, pour avoir un album, on a 6 mois de lecture, quoi, à peu près.
Ouais, alors si tu suis qu'une série, parce que le but c'est quand même que t'en suives au moins une vingtaine. C'est un peu comme Netflix là-dessus, c'est que on n'a pas, en tout cas nous on te pousse pas à te contrôler, hein. On a bien fait les choses pour que tu te dises, ah c'est déjà fini, bah tiens qu'est-ce que je pourrais dire, ah bah ça c'est super, il me suggère en plus. Ah puis il y a 170 épisodes déjà, bon bah alors on va y aller.
Ah,
Voilà.
le fils de l'éditeur n'a pas de limite.
Aucune, c'est un métier. Je suis formé pour ça.
Quel thème il pourrait manquer dans les banques d'images de Webtoon, dans les
Eh
domaines?
bien, c'est un peu ce dont je te parlais aujourd'hui. Je pense que le webtoon, comment on pourrait appeler ça, le webtoon du réel, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un peu comme la bande dessinée du réel, n'existe pas vraiment encore. Tu vois, on n'a pas encore un reportage sur, je ne sais pas, je sais pas, la place des femmes. Enfin, tu vois, il y a peu la sociologie, la guerre, etc. On n'est pas encore sur ces sujets extrêmement productifs. Voilà, ça s'explique par le lectorat, par les envies des auteurs, par la capacité des plateformes à s'en occuper. Là, nous, on travaille sur un webtoon et une série de bandes dessinées qui va s'engager contre le harcèlement scolaire qui va sortir en septembre. Et ça, tu vois, c'est vraiment ultra intéressant de pouvoir s'emparer de ce sujet et d'en parler directement à des collégiens à l'endroit où ils sont. Mais c'est un peu nouveau. On est encore un peu dans une démarche. Voilà. Donc, tout ce qui tourne autour du réel n'est pas. Par contre, tout ce qui est du domaine de la fiction et de la fantasy, honnêtement, on a pas mal.
Ouais, mais
Pas mal.
maintenant c'est à la fois un marché et un média tout jeune, quoi. 15 ans, c'est pas grand-chose,
Tout
hein.
à fait. Et puis en France, c'est 5, à part Dailytoon, effectivement, dont on parlait, qui a commencé il y a 10 ans avec Didier Bord, très très en avance sur le reste du monde, qui pour le coup ne faisait que de la traduction de coréen. C'est la création française, on a commencé, ouais, quand je suis arrivé, Never arrivé juste après, donc il y a 4-5 ans. Donc c'est très peu, en fait.
Bah, Éloi, on s'est dit vraiment plein de choses sur le webtoon. Je te remercie beaucoup. Avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais me donner deux ou trois titres importants que vous avez déjà édités ou bien que vous allez éditer dans les mois qui viennent pour que mes auditeurs, mes auditrices puissent offrir à leurs enfants des épisodes de webtoon?
Eh bien, avec plaisir. Je te parlais donc de la série Les combats invisibles contre le harcèlement scolaire qui sortira en septembre. Voilà, ça c'est vraiment une des futures sorties hyper intéressantes avec des jeunes auteurs très pop. Et puis je t'invite à regarder Soma pour la recherche artistique, qui est vraiment hyper intéressante. Là, tes auditeurs, les plus âgés, les plus formés à l'art dessiné devraient y trouver leur compte. Et puis Le Grand Retournement, qui est une série par un jeune Lillois qui est brillante, qui est une vraie série Netflix. Le monde, le pitch est simplissime. La gravité s'inverse pour les êtres humains et ils doivent apprendre à vivre la tête penchée vers le ciel. Voilà. Donc, comment survivre sans tomber dans un monde qui s'est inversé? Et c'est assez génial.
Bah, ça pourrait être à la morale du marché du webtoon, alors.
Absolument, on pourrait commencer à faire du webtoon à l'inverse. Ça serait vraiment une belle recherche. À
Te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt.
bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.